BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée aux associations sociales du Mantois. Et aujourd'hui, ce n'est pas une association mais un collectif que nous recevons pour parler d'un métier essentiel aux scolaires à besoins spécifiques, les accompagnants des élèves en situation de handicap, ce qu'on appelle plus communément les AESH. Et pour en parler, je reçois le collectif AESH 78 avec moi Fatima, Swad et Christelle. Mesdames, bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez nous présenter votre collectif ?
Bonjour. Donc, notre collectif a été créé il y a maintenant 7 ans. Au démarrage, c'était les enseignantes, en tout cas de l'éducation nationale, qui s'occupaient de défendre les AESH. Et suite à ça, on a créé un petit groupe pour qu'on se saisisse nous-mêmes du problème, car aujourd'hui, l'éducation nationale ne nous donne pas suffisamment les moyens pour pouvoir travailler correctement. Nous ne sommes pas une profession, nous sommes une profession qui est précarisée et nous voulons correctement travailler. On aimerait avoir un peu plus de moyens et de considération pour accompagner un peu mieux et beaucoup mieux en tout cas des élèves avec des besoins spécifiques et à besoins particuliers.
Avant de parler un peu plus justement des différentes problématiques, on va revenir sur le métier en lui-même. D'AESH, donc on le disait, hein, accompagnant des élèves en situation de handicap. Qu'est-ce que c'est réellement être AESH ?
AESH, c'est accompagner un enfant dans une classe, être près de lui et l'aider à, comment dire, à comprendre les informations que lui donne le professeur, par exemple. Notre rôle, c'est de reformuler et de le laisser prendre son temps, en fait, en apprentissage.
Alors, si je peux rajouter, oui, en fait, c'est d'accompagner ces enfants-là, donc vos enfants, nos enfants, puisque, évidemment, ce sont quand même des enfants, nos enfants aussi, hein, donc on les accompagne, lors de leur apprentissage scolaire. Donc, comme a dit Christelle, c'est, par exemple, oui, effectivement, c'est reformuler des consignes, mais en fait, l'idée, c'est de l'accompagner surtout vers l'autonomie, parce que c'est pas non plus de l'assistanat, c'est de l'accompagnement. Parce que c'est important aussi de le dire, parce qu'on n'est pas là non plus pour, c'est vrai, de faire à sa place. C'est surtout qu'il prenne son autonomie, l'envol à travailler seul surtout. Donc grâce à ça, nous avons des supports comme...
Les pictogrammes, comme des dictées à trous, comme... on adapte en fait selon les capacités de l'enfant et on est là surtout pour qu'il déculpabilise. Il n'est pas au même rythme que les enfants, les autres enfants, et ça se respecte et on est là pour l'accompagner dans les tâches du quotidien avec, comme dit Fatima, différents supports pour certains enfants quand il y a qu'ont des troubles et qu'ont besoin de par exemple sortir de la classe parce qu'ils ne sont pas bien, on est là souvent tout le temps à l'affût du moindre signe avant-coureur de ce qui pourrait ne pas aller. Et quand on voit ces signes, on le sort de la classe pour qu'il décompresse, si je puis dire. Et après, on revient en classe et on continue le travail.
On va reprendre le parcours un peu au départ. Ce sont les parents, en fait, qui font les demandes pour les AESH, ça peut être un professeur. Comment ça fonctionne déjà à l'origine ?
Alors, au démarrage, les enfants, lorsqu'ils sont... Alors, quand ils sont scolarisés, parce qu'on a des enfants qui vont de la maternelle jusqu'au lycée, voire au-delà, quand ils arrivent en maternelle et qu'ils n'ont jamais été scolarisés, ça prend un certain temps avant de déceler, de remarquer qu'effectivement, il y aurait peut-être besoin d'une aide ou qu'il y a des problématiques chez cet élève. Donc une fois que le constat est fait, une équipe d'enseignants se concerte, une fois que la concertation a eu lieu, et en accord avec la famille, parce que parfois les familles ne sont pas toujours prêtes, elles ne sont pas toujours prêtes à entendre certaines...
Une forme de déni.
Et donc ça prend le temps que ça prend. Une fois que la problématique est posée, il y a des documents à remplir, il y a des dossiers à faire auprès de la maison du handicap. Et une fois que ça c'est fait, donc ça prend quand même beaucoup de temps, une fois que ça c'est fait, l'enfant reste à l'école tout seul, enfin avec les enseignants et avec les autres élèves. Et donc on essaye d'agir assez vite pour que l'élève, s'il a des difficultés, qu'elles soient compensées suffisamment tôt, pour lui permettre en tout cas une bonne inclusion au niveau scolaire. Et les parents donc ont une notification qui est reliée de la part de la MDPH. Et à partir de là, cette notification est donnée à l'école, au référente de scolarité qui s'occupe d'apporter une aide humaine pour compenser le handicap des élèves. Nous les suivons dans les écoles pour compenser, donc pour les inclure, moi j'aime pas beaucoup, mais pour leur permettre en tout cas d'être dans l'école en inclusion. Et nous travaillons sur la vie quotidienne, la sociabilisation et les apprentissages scolaires. Voilà, nous, notre fonction, elle est là. Et nous travaillons en collaboration avec les enseignants et l'équipe enseignante. Donc quand on met en place on le fait en collaboration avec l'enseignante. On fait des essais, on a un projet d'accompagnement par rapport à l'élève pour pouvoir établir par écrit ce qui pourrait lui convenir et adapter au mieux, tout cet accompagnement.
Du coup, vous êtes affilié à un enfant ?
Du coup, nous ne sommes pas affiliés à un seul enfant. Il existe 3 prises en charge. Il existe l'AESH qui travaille dans un milieu collectif, c'est-à-dire qu'elle est dans une classe avec au moins minimum 12 élèves qui ont des besoins particuliers, avec une enseignante qui est formée. Donc, ils sont 12 élèves avec une AESH. Il existe les AESH individuels. Celles-ci ont des prises en charge avec 12 heures, parfois 10 heures, et elles n'ont qu'un seul enfant. Et il y a celles qui sont mutualisées, celles qui peuvent avoir un enfant, deux enfants, trois enfants. Il y a aussi des élèves qui peuvent avoir 2-3 AESH.
Pour combler, parce que vous ne pouvez pas faire l'intégralité du temps nécessaire pour cet enfant avec le même enfant, c'est ça ?
Alors, ça dépend. En fait, tout ça, nous, la mutualisation, c'est ça qu'on dénonce un petit peu. Le fait d'avoir à jongler entre 2-3 élèves, parfois en même temps dans la même classe, avec des besoins différents, donc c'est compliqué.
Et il peut y avoir quand même des enfants avec des aides individualisées. Donc, oui, ça s'en va de plus en plus, puisque maintenant, c'est vrai, comme disait Swad, on se retrouve plutôt avec 2, 3, 4, voire 5 enfants à accompagner. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même des demandes qui sont individualisées. Et c'est vrai qu'on travaille vraiment et on se bat, mais c'est vrai que l'inclusion, parfois, peut être très difficile, puisque les conditions ne répondent pas à nos besoins.
On sait que les pathologies des enfants que vous accompagnez peuvent être extrêmement différentes d'un enfant à un autre. Est-ce que vous êtes formée pour pouvoir les accompagner et les aider ?
Non, en fait, on n'est pas formée. On a une formation en fait, de 60 heures théoriques. Moi, j'ai eu ces 60 heures après avoir pris mes fonctions.
Ça veut dire que vous aviez déjà commencé à accompagner des enfants avant d'avoir reçu cette formation ?
Exactement, oui, oui. Et je m'en sors bien, si je puis dire, parce que je viens du monde médical et j'ai pu, quand j'étais démunie, appeler mes anciennes collègues, ergothérapeutes, psychomotriciennes, pour savoir comment faire avec l'enfant que j'accompagnais. À cette époque-là, c'était un enfant autiste et j'étais l'enseignante qui accompagnait cet enfant et moi, nous étions démunis. Et en fait, vous faites ça, un peu au feeling ou à l'instinct, en fait. Hein.
C'est les parents peuvent vous aider ? C'est-à-dire, est-ce que vous rencontrez les parents ? C'est comme peut-être ceux les plus à même pour vous parler de la personnalité de leur enfant ou de leur dire ce qui peut aider ?
Alors, les parents, on les rencontre, moi, en tout cas, à cette période-là. Non, je n'avais pas rencontré les parents. Non. Après, on les rencontre lorsqu'il y a une équipe éducative. Donc, c'est dans l'année, mais pas en début d'année. On ne rencontre pas les parents, non. Donc, on n'a pas un recueil d'informations, en fait. Pour savoir,
du coup, qui vous donne les informations ? L'enseignant ? Ou en tout cas, qui vous parle de l'enfant dont vous allez vous occuper ?
Lorsqu'on arrive et qu'on a une notification, qu'on nous demande... Alors, quand il y a une notification, qu'il y a une aide humaine qui peut être proposée, parce que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas parce qu'on a une notification qu'un enfant va tout de suite avoir une aide humaine.
On le voit d'ailleurs chaque année en septembre, en règle générale, très compliqué.
C'est très compliqué. Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est pareil. Donc, les parents ont... On n'est pas en relation directe avec les parents. Nous pouvons en tout cas, nous pouvons travailler et nous présenter, nous pouvons solliciter, mais sous couvert. Parce que c'est très délicat quand même. C'est, alors que oui, dans notre décret, il est stipulé qu'on a la possibilité, si nous le souhaitons, d'échanger avec les familles et puis de se présenter. C'est quand même une base, ce qui n'est pas toujours le cas. Il arrive que les familles, nous ne les voyons jamais. Nous suivons leur enfant, nous ne savons pas qui sont les parents, et il arrive une fois dans l'année une équipe de suivi de scolarité pour ces enfants-là, où on fait évidemment la connaissance des parents, par exemple. Maintenant, oui, on peut y changer après, sous couvert en tout cas, de comment on va faire
le point
avec eux. On est en collaboration de toute façon directe avec les enseignants. Et on essaye en tout cas de s'intégrer déjà nous-mêmes parfois dans certaines équipes.
Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, bien que je pense connaître la réponse, une semaine type d'une AESH, à quoi ça ressemble?
Alors, une journée type, c'est difficile de le dire parce que...
Moi, j'ai la chance, cette année, d'accompagner un enfant en 20 heures. J'ai un contrat de 20 heures et j'accompagne un enfant en 20 heures. Et une journée type, ben, j'ai une superbe collègue enseignante. Une journée type, c'est...
On accueille l'enfant, voilà. Évidemment. On rentre dans la classe, on accueille l'enfant.
Quand on a l'habitude, on arrive dans la classe, on s'assoit près de lui. Et puis l'enseignante nous donne le travail à effectuer pour la journée, hein, les détails de ce qu'on va faire, le programme. Et puis on fait en respectant son temps.
C'est par rapport à son handicap allure, aussi, fait, hein. Et puis par rapport à son handicap,
voilà, on
va s'adapter.
On fait le programme en fait.
Alors moi, le mien, alors si je peux me permettre aussi, donc moi, le mien, moi j'ai 3 enfants actuellement, donc là c'est différent puisque je jongle sur 2 écoles. Donc dans une commune pas très loin. Et c'est vrai, ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'en général, les AESH, donc en fait les accompagnants, sont sectorisés plutôt à proximité de leur domicile, puisqu'effectivement, c'est pas un salaire. Bon bref, on va pas en parler tout de suite, mais moi, ma semaine type, c'est même pas une journée, c'est ma semaine, parce que de toute façon, elle se ressemble tous les jours, hein, comme dit Christelle, c'est d'accompagner l'enfant, donc on l'accueille. On s'installe, on lui demande comment ça s'est passé, etc. Donc, le fait de recréer notre confiance, voilà, il y a toujours aussi ce lien qui doit se faire, hein, tout le temps, tous les jours, c'est un travail. Et moi, ma journée, voilà, c'est une semaine. Alors, voilà, le matin, je suis dans une école avec un enfant, l'après-midi, avec 2 enfants, et ainsi de suite. Donc, un jour, un matin sur 2, je suis dans une école avec un enfant et dans une autre école avec 2 enfants. Donc, voilà, la journée type, elle est... Voilà, c'est vraiment l'accompagner dans ses apprentissages, et on essaie de s'adapter à chaque handicap de chaque enfant. Et c'est quand même des journées qui sont assez fatigantes par la suite.
Oui, tout à fait, Fatima. Et aussi, comment dire, ce qui est important, c'est de la journée type. Les jours ne se ressemblent pas, en fait. Vous pouvez avoir l'enfant, par exemple, le lundi qui est bien, et puis le mardi... Vous voyez des signes sur son visage, oh, peut-être mal dormi, il n'a peut-être pas passé une bonne matinée, enfin, mal réveillé peut-être.
On s'adapte.
Donc déjà, voilà, il y a des signes qui font que le temps d'arrêt, on passe le couloir, là vous voyez un peu, vous prenez la température. Bon, ok, on observe ça, bon, on va commencer tranquillement, on discute avec la collègue. Bon, on commence tout doucement, s'il a besoin de se reposer, parce qu'il peut avoir besoin de se reposer selon... voilà comment s'est passé sa nuit. Voilà, on prend compte, on est à l'affût en fait du moindre signe qui auquel il faut faire attention pour une bonne prise en charge en fait, hein, de sa scolarité.
On sait qu'aujourd'hui les diagnostics sont de plus en plus nombreux, puisqu'aujourd'hui les moyens sont quand même plus adaptés pour pouvoir trouver les troubles que peuvent avoir des enfants. Du coup, de fait, il y a aussi beaucoup plus de demandes d'AESH. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez?
Oui. Alors oui, tout à fait. Les demandes ont explosé, je dirais. Bon, il y a un décalage entre les demandes et la possibilité de pouvoir répondre à ces demandes-là. Malheureusement, le trouble, le champ du handicap chez l'enfant commence maintenant très tôt et il est divers et varié. En tout cas, le handicap, on y met le handicap physique, on y met le handicap plutôt cognitif, l'handicap, on appelle les troubles, les troubles invisibles, l'autisme, la trisomie, le TDAH,
les troubles de l'attention,
l'hyperactivité, les hauts potentiels aussi, les HPI, enfin. Et puis parfois, il n'y a pas forcément du handicap, mais il y a besoin, en tout cas, il y a un besoin pour un enfant d'avoir une aide dans la classe pour l'aider à s'intégrer, l'aider à comprendre ce qui se passe, à décortiquer en tout cas le monde et l'environnement dans lequel il est, parce que parfois c'est ne pas savoir ce qu'il y a à faire, comment le faire. La sociabilisation, comment réagir avec les camarades, les repères dans le temps, dans l'espace, tout ça, c'est ce qui nous paraît, nous, déjà acquis, facile à faire, n'est pas du tout très facile pour ces enfants-là. Et oui, les demandes ont augmenté. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a certains centres qui ont fermé, il y a des listes d'attente dans certains établissements spécialisés qui vont au-delà de 2 ans, 3 ans d'attente pour des enfants qui ont des troubles, qui rentrent dans le champ de l'école, mais qui parfois ne peuvent pas rester à l'école sur toute la semaine. C'est beaucoup trop long. Ils ont une fatigabilité qui est excessive et une concentration qui est très, très diminuée, peut-être limitée. Mais par contre, ce n'est pas une généralité, ce que je dis. C'est du cas par cas. Tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins. N'ont pas les mêmes difficultés. Alors nous, notre rôle, c'est quand même de lui faciliter l'inclusion scolaire et l'autonomie, de gagner en autonomie. Cependant, nous ne pouvons pas retirer parfois certains handicaps. Ils sont là, ils seront toujours là. Et lorsqu'on nous demande parfois de les accompagner durant l'année et qu'il faut passer un examen, parce que c'est pareil, quand ils grandissent, ils doivent passer... Et quand ils peuvent arriver à passer le bac ou le brevet, il faut mettre en place un accompagnement même à ce moment-là. Alors je donne toujours l'image de la personne qui a des lunettes pour travailler toute l'année. Le jour de l'examen, on lui dit non, t'enlèves tes lunettes parce que on pense que c'est pas toi.
Expliquer comme ça paraît aberrant, effectivement.
Évidemment. Donc voilà, un enfant qui a un fauteuil roulant toute l'année, le jour du bac, on lui dit bah non, on t'enlève ton fauteuil roulant et puis tu te débrouilles, Voilà, je trouve ça très, très violent, en tout cas. Et pour nous aussi, c'est insupportable de se dire qu'à ce moment-là, il y a aussi, on a besoin aussi de l'accompagner correctement et qu'on nous fasse confiance un petit peu et qu'on réfléchisse autrement autour de l'accompagnement du handicap, l'inclusion. Il faut nous donner les moyens et Merci se donner ça. Les moyens parce que le champ du handicap peut concerner tout le monde.
On sent que c'est véritablement un très beau métier, en plus d'être un métier... particulièrement nécessaire, puisque je suppose que du coup, quand ce n'est pas possible, ou en tout cas quand vous n'êtes pas assez nombreuses, on va en parler au féminin, parce qu'on en a parlé un peu avant, vous avez dit que c'était un métier qui restait quand même encore très féminin. Ce sont aux enseignants de pallier à ce besoin ?
Oui, c'est les enseignants qui compensent tout à fait, mais c'est au détriment des autres, en fait. C'est au détriment des autres élèves, parce que ils accompagnent, ils reformulent pour l'enfant, ils font comme ils peuvent, mais ils sont obligés de laisser les autres de côté, les autres élèves.
Surtout avec des classes qui sont surchargées, parce que là, de travailler avec un enfant en situation de handicap et des élèves, les élèves, c'est très, 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 très compliqué.
C'est tout simplement impossible avec un enfant qui a des troubles autistiques. Pour l'enseignant, c'est impossible de faire classe. Elle ne peut pas. S'il faut sortir l'enfant de la classe, par exemple, parce qu'il a besoin de décompresser, elle ne peut pas abandonner sa classe. Donc,
la problématique est là. Justement, des problématiques, on en a parlé un petit peu au début. Quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez ?
Elles sont variées. Ça peut être, par exemple, c'est vrai... d'accompagner un enfant qui en a peut-être plus besoin que d'autres. Donc c'est vrai que pour s'organiser, c'est difficile. Donc ça peut être une problématique, mais c'est toujours pareil au cas par cas. Parce que moi, c'est mon expérience à moi actuellement. Donc je rends compte que j'ai trois enfants dans la même classe. Je ne sais pas parfois comment me partager entre les trois enfants. Donc ça aussi, oui, c'est très dur. Donc on va essayer de dire, bah, tiens, lui, il a peut-être plus besoin en calcul, donc je vais rester plus avec lui en calcul, mais l'autre se sent lésé parce que finalement, ça par contre, pour moi, c'est très dur de gérer ce temps-là.
Et là, pour ça, on vous aide, on vous accompagne, vous aussi?
Bah, moi, j'ai la chance aussi de rencontrer, enfin, jusqu'à maintenant, des enseignantes qui sont très, très à l'écoute. Elles ressentent parfois, effectivement, qu'on est désarmé pour un outil ou pour une consigne parce que l'enfant ne comprend pas. Donc, elle va venir nous aider. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Enfin, pas toutes, parce que parfois, on peut... Y a des enseignants aussi qui sont dans l'inconnu parce qu'elles-mêmes, quand elles arrivent, elles ne sont pas formées aussi à ce champ de handicap qui sont très variés aujourd'hui. Donc, c'est très difficile. Mais cette collaboration, on essaie en tout cas, entre enseignants et nous, aides humaines, à ce que ça aille en progressant et de travailler avec harmonie quand on le peut.
Avec le collectif, qu'est-ce que vous souhaitez faire ?
Avec le collectif, on aimerait pouvoir faire connaître en tout cas notre travail. Nous voulons en tout cas que nos collègues, en l'occurrence certaines collègues à ESH qui elles ont peut-être plus de difficultés que ce qu'on a nous, qu'elles se sentent impliquées, qu'elles se sentent écouter, qu'elle sache qu'il y a en tout cas un espace qui nous est dédié parce qu'on a des on sait que dans les établissements l'équipe enseignante c'est un corps enseignant qui a qui a une force. Les AESH dans les écoles, pour peu qu'elles soient deux ou trois, ça va, on arrive encore à créer du lien, à parler entre nous et on arrive à avoir un lien. Par contre, quand on est isolé, qu'on est seul dans une école AESH, bon, face aux enseignants, il y a un décalage. En tout cas, le collectif est là pour nous donner un espace d'échange, un espace d'information, un espace de retour, en tout cas, du vécu, et de comprendre un peu au mieux nos conditions, en tout cas, de travail. De travailler en collaboration, je vous le dis, avec les enseignants, et de se former, de s'auto-former au niveau de nos droits, car nous en avons beaucoup. Étant donné qu'on est un peu qu'on est précaire, qu'on n'est pas formé, on se sent un peu dévalorisé.
Voilà. Comment vous faites justement avec le collectif? Est-ce que vous vous réunissez avec les différents membres? Est-ce que ce sont des moments de rencontre et d'échange? Comment vous fonctionnez?
Nous avons, donc je vous dis, un petit groupe d'une dizaine de personnes qui est à l'origine du collectif et au départ avec les enseignants qui étaient là pour nous seconder. Et ensuite, petit à petit, on a instauré un lieu d'échange, de rencontre une fois par mois. Sur les réseaux, nous communiquons beaucoup sur ce que nous faisons. Nous sommes appelés aussi par téléphone parfois. Nous sommes identifiés. On est le petit groupe de personnes qui gèrent... entre guillemets, le collectif, on est identifié par nos collègues, par les enseignants aussi, et on est sollicité pour comprendre la fiche de paye, par exemple, pour avoir des informations sur l'actualité, parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau du ministère et qui retombent après sur qui découlent après sur notre travail, et connaître nos droits, ne pas se sentir isolé et seul. En tant qu'AESH, il arrive aussi que dans certains établissements, on est face à l'élève et on ne sait pas toujours comment faire, puisqu'il n'y a pas de formation en amont. Ça, ce sont les premières revendications, la formation avant la prise de poste, pour pouvoir après avoir un statut, avoir au moins être considéré dans la grille professionnelle.
Vous parlez de statut, vous dépendez de l'éducation nationale, vous êtes fonctionnaire?
Nous dépendons de l'éducation nationale aujourd'hui. Alors, depuis quelques temps, nous pouvons être CDIsés au bout de 3 ans. Contrairement, il y a 2 ans ou 3, on était CDIsés au bout de 10 ans. De 6 ans, pardon. 6 années de CDD pour après aboutir à un CDI. Mais nous faisons fonction. Nous ne sommes pas des fonctionnaires de la fonction publique.
C'est pour ça que vous parlez de précarité.
Exactement. Nous sommes à des mi-temps imposés. Nous ne pouvons pas faire 35 heures par semaine, à moins d'être peut-être au collège et encore. Mais c'est très difficile. On a un salaire, en tout cas, qui est de 900 euros par mois, 800 euros par mois, selon le nombre d'heures qu'on fait dans la semaine. Dans le nombre d'heures dans la semaine, il est soit de 24 heures, et soit de 20 heures, et on tourne aux alentours de 900 euros par mois pour la plupart des collègues, et on se bat en tout cas pour avoir des primes, pour avoir une revalorisation salariale, pour être dans la grille en tout cas professionnelle, et tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc on s'auto-forme, et on se renseigne en tout cas... comme on peut, on interpelle parfois aussi l'inspection académique, nous faisons des mouvements de mobilisation lorsque nous pensons que c'est un moment où effectivement on a besoin de se faire entendre, et ça s'est avéré l'année dernière et les autres années, il y a souvent une mobilisation nationale des AESH seuls, sans pas noyer en tout cas dans avec les enseignants, avec le personnel de l'éducation nationale.
Et soit en plus, nous sommes comme les enseignants présents dans l'établissement du lundi au vendredi. Et il n'y a pas de différence de présence en fait. On est là du lundi au vendredi. Maintenant, cette grosse différence de non-reconnaissance que nous avons, c'est plus... Il faut vraiment que les choses changent, parce qu'on est indispensable. On est indispensable aujourd'hui, plus que jamais. Et il faut vraiment que ça bouge, il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ça au niveau des politiques. Il faut qu'ils se réveillent, quoi.
Et aussi, Julie, je reviens... moi, tout à l'heure, quand on parlait des conditions, une journée type dans les classes... C'est que parfois, effectivement, on peut se retrouver avec plusieurs enfants dans différentes écoles ou pas, mais on peut se retrouver aussi avec trois AESH dans la même classe, plus l'enseignante. C'est-à-dire quatre adultes pour nos différents enfants qu'on doit accompagner. Ça aussi, c'est très, très difficile.
Merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous présenter votre collectif AESH.
Merci, Julie.
AESH 78. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site internet www.bpmlaradio.com dans les podcasts. Celle-ci et les précédentes. À très vite pour une prochaine émission.